Bonjour, je suis Yann Verling, je suis vice-président de la région Île-de-France à l'écologie et je suis engagé pour l'environnement depuis une trentaine d'années. Vous écoutez un nouvel épisode de Concret, le podcast qui met en lumière des solutions pour une écologie positive. Je vous propose de partir à la rencontre d'un faiseur de solutions, ou plutôt d'une faiseuse de solutions. Bienvenue, on est parti pour une demi-heure d'échange avec Claire Pétraud, fondatrice des Pépites Vertes, également autrice d'un livre que j'ai sous les yeux qui s'appelle « Je bosse pour la planète ». Bonjour Claire.
Bonjour Yann, merci pour l'invitation.
Ben, c'est moi qui suis très contente de te recevoir ici à la région Île-de-France. On est dans un petit la cafette, c'est la première fois qu'on fait notre podcast ici. Je voulais qu'on évoque ensemble ton parcours.
D'accord.
D'où tu viens.
D'où je viens.
Comment t'es arrivé à faire les pépites vertes.
D'accord.
Enfin, on va pas tout de suite parler de pépites, le parcours
okay.
D'abord.
Eh bien, même si j'adore la région Île-de-France et que je vis aujourd'hui à Paris, moi je suis originaire des Pays de la Loire, une petite ville dans le Maine-et-Loire qui s'appelle Segré, une sous-préfecture. Je commence toujours par là parce que c'est vraiment là qu'est né mon engagement. Je suis petite fille de paysan, je suis fille de prof, j'ai fait beaucoup de sport collectif quand j'étais jeune lycéenne et du coup je me suis toujours engagée. Donc pendant mes années scolaires, en vrai, c'était déjà un truc que j'avais dans le sang. J'étais même jeune conseillère municipale dans ma petite ville parce que j'avais envie de faire bouger les choses et que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'activités pour les jeunes. Et du coup, assez vite, je me dis, comment je peux en faire un métier, une carrière, un projet de vie. Et un ami de mon père me parle de Sciences Po et donc je tente, même si je suis dans un petit lycée, je tente l'aventure et contre toute attente, je suis prise à Sciences Po Paris. Et donc il y a 12 ans, et ça me rajeunit pas, j'arrive à Paris pour faire mes études en sciences politiques et sociales. Et moi, ma passion, c'est les histoires, les récits, la communication. Donc assez vite, je vais m'orienter vers le master communication. Et puis après, je ne sais pas dans quelle mesure il faut que je commence à spoiler la suite, mais en tout cas, c'est en allant à la rencontre de ceux qui créent les contenus, qui créent les récits, que je me dis que c'est ça qui change le monde et que c'est ça ma voix à moi.
Bon, déjà, il y a un truc qui me plaît, c'est que comme c'est un dialogue entre quelqu'un qui est actif dans la vie engagée et puis un élu comme moi, c'est que tu as commencé déjà à mettre le doigt sur ce qui fait... aujourd'hui, moi, mon propre engagement qui est politique, toi, tu es conseillère municipale jeune, donc déjà, tu as
je l'ai déposé
pratiqué
quand même.
Un tout petit peu.
Oui, j'ai quand même un petit gardé un peu
puis,
de politique.
Et puis Sciences Po,
ouais.
C'est quand même l'antre de ceux qui peuvent possiblement se diriger vers l'activité politique et l'action politique. Ce n'était pas mon cas, moi, j'ai fait une école d'art, mais tout mène à la politique. Hein,
bien voilà. Sûr, tout est politique, je crois.
Tout est politique, par ailleurs, oui, absolument, mais merci de le dire. Donc, effectivement, cet engagement Sciences Po, alors, dans Sciences Po, tu as quand même plutôt été sur la com, c'est ça, ce que tu expliquais.
Ouais. Je fais ma troisième année aux États-Unis. J'ai un cours là-bas avec un prof parce que je prends tous mes cours au Collège de la Communication en Floride, à Gainesville. Et j'ai un prof qui m'ouvre les yeux sur la puissance des médias et comment ils dessinent en fait la société, comment ils impactent la manière dont on trouve des choses justes et d'autres pas. Et donc, en rentrant en master, je me dis, je vais faire de la com. Alors, il faut quand même un peu dire qu'à Sciences Po, faire le master com, ce n'est pas forcément le plus évident.
Ben oui, c'est pour ça que je pose
la
question.
Parce qu'on fait relations internationales, affaires publiques, affaires européennes. Mais, je sais pas, ça ne m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de créer et de faire des choses qui me plaisent avec mon cœur. Donc, le master communication, médias, industrie créative, il était 100% aligné avec qui j'étais. Et après, j'ai pu faire plein de stages dans ce secteur-là. Et tous les jours, je suis contente d'avoir fait ce master.
Mais il y a un truc qui m'intéresse là dans ce que tu dis, c'est donc déjà tu dis que beaucoup de copains de classe ou de l'école n'ont pas choisi cette voie comme parce que la voie royale c'est l'international, c'est,
ouais.
Voilà, bon. Mais justement, moi je constate quand même que dans la vie politique, mais pas que, la place des médias, notamment des réseaux sociaux, a pris une ampleur telle. Alors comment tu expliques ce phénomène de glissement? En plus, moi je dois dire honnêtement que c'est un glissement quasiment récent. Il y a 5-10 ans, on n'était pas sur ce phénomène où aujourd'hui, il n'y a pas un homme politique ou une femme politique qui peut ne pas penser que ça passe par les réseaux sociaux. On fait plus de communiqué de presse papier.
Bien sûr.
On communique sur les réseaux sociaux.
Je pense qu'il faut que je redise d'où je parle. J'ai de la chance, je fais partie de la dernière génération à avoir vécu sans téléphone à 12 ans. Vraiment, ouais. Je suis la dernière, genre à 13, j'en avais un. Et là, les jeunes naissent avec des téléphones dans les mains, quoi.
Ouais.
Enfin, et donc,
et
du
plus
coup,
que
j'ai...
des téléphones intelligents avec Internet dessus et tout. Quoi.
Exactement. Ouais. Et donc, du coup, je pense que j'ai la chance d'avoir pu observer le monde sans et le monde avec. et d'avoir un peu de conscience de qu'est-ce que ça apporte ou pas. Moi, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, je fais des vidéos tous les jours sur les métiers de l'écologie. Donc, j'ai un avis un peu, ça dépend des matins vis-à-vis des réseaux, parce que d'un côté, je pense que c'est les réseaux qui font qu'on a une jeunesse très consciente et très éveillée sur des sujets sociétaux et environnementaux. De l'autre, c'est aussi ces réseaux qui créent des bulles qui nous empêche de discuter, de débattre aujourd'hui. Et du coup, tous les jours, je me demande si mon endroit, c'est bien les réseaux sociaux. Et en fait, à la fin, la réponse est toujours oui, parce que justement, parce que tout passe par les réseaux sociaux, je pense que les acteurs de l'écologie, de l'inclusion et de la solidarité doivent s'en emparer. Pour autant, il y a un enjeu de formation et de sensibilisation à l'éthique, à la conscience, à l'impact environnemental du numérique et du streaming, qui est important à avoir en tant que créatrice de contenu engagée. Mais je suis contente d'y être, parce que c'est vrai que c'est là que ça se passe, quoi.
C'est incontournable. On peut pas faire autrement. Et tu... Bon, on va pas aller là-dessus. J'ouvre une parenthèse. Tu crois que c'est durable? Tu crois que ça va... Il y aura pas un retour de bâton à un moment donné où on va se dire... Allez, ça suffit maintenant. Moi, j'entends, il y a des fois des moments où on dit, allez, une semaine sans portable. Ouais. Enfin, il y a des phénomènes comme ça maintenant, même écolo d'ailleurs, hein, où on essaie de se désintoxiquer. Qu'est-ce que tu en penses de ces phénomènes, possiblement de retour de bâton?
Il y a ce que je crois et ce que j'espère. Et ce que j'espère, c'est qu'il y a un moment où on va avoir envie de revenir dans le réel très fort. Il va y avoir, je l'espère, une quête de sens du lien, en fait, parce que c'est ça qu'on est en train de perdre avec que du digital, c'est des relations humaines physiques. Et comme je dis, moi, j'ai un petit village, conseillère municipale des jeunes, engagée au lycée, et en fait, ma passion dans la vie, et c'est celle de tout le monde, c'est d'être avec des gens. Je veux dire, on est des humains, fait un peu pour ça quand même. Et donc, il y a un moment, si on s'isole trop en digital et qu'on s'empêche de se rencontrer, j'ai l'intuition qu'il va nous manquer un truc d'humain. Et que les espaces de convivialité qu'on devra recréer en tant qu'acteur du changement, qui sont des places des fêtes ou des assos locales ou quoi que ce soit, eh ben, pourraient devenir un endroit de cristallisation du lien à nouveau. En tout cas, c'est vraiment un souhait que j'ai. Je ne sais pas si c'est une vision utopique, mais je crois qu'il faut des visions un peu utopiques dans la vie, sinon on ne se lève plus le matin. Et que le digital soit au service du réel.
Oui. Bon, ben voilà, moi, je partage cette intuition, c'est pour ça que je voulais vérifier avec toi ce côté un petit peu incontournable du digital que tu utilises et que j'utilise et que tout le monde utilise, mais qui aujourd'hui, voilà, commence à nous laisser entendre qu'il y a un besoin de retour au réel qui est nécessaire. Bon, voilà. C'était une parenthèse. Mais alors, précisément, toi, ton engagement, c'est l'humain, c'est de valoriser... Des gens et intéressé aux gens et précisément. En sortant de Sciences Po, comment t'as eu l'idée d'aller vers la création de cette pépite?
Ouais.
Ça s'appelait comme ça au début, non? Ça n'avait pas ce nom?
C'était les pépites vertes. Après, ouais. Les pépites vertes, c'est un bébé du confinement. Des Covid.
Commençons par là.
Et avant ça, qu'est-ce que j'ai fait? Alors moi, je suis créatrice de contenu sur LinkedIn. LinkedIn, c'est la plateforme qui m'a vraiment fait booster ma carrière parce que j'arrive entre mon Master 1 et mon Master 2. Je fais une année de césure. Je travaille à La Ruche qui dit oui. Je vends des produits d'agriculteurs locaux. Ensuite, je bosse à Co-Cycler. Je collecte les biodéchets des restaurateurs de la ville d'Angers pour en faire du compost. Et donc déjà, je mets les mains dans le cambouis et dans le compost, techniquement. Je rentre à Paris. Je fais mon Master 2. Et je me dis, je ne peux pas faire mon master sans travailler alors que je viens de faire un an de stage. Et donc, je publie mon CV sur LinkedIn et là, je trouve mon premier job qui est à Change Now, le plus grand événement mondial des solutions pour la planète, où je rentre à 22-23 ans en tant que responsable de la communication. Et donc, voilà, c'est déjà ça ma vie. Je suis déjà au travail, même si je termine mes études. Le confinement arrive et là, franchement, cette jeunesse étudiante, elle perd tous ses espoirs, elle est décontenancée. En plus de ça, elle a accès à beaucoup de contenu, donc elle se réveille aussi écologiquement. C'est les moments Greta Thunberg, c'est les moments pour un réveil écologique. Et donc je me dis, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, enfermée dans ma chambre chez mes parents, puisque j'ai eu la chance de rentrer à Segré pour me confiner, pour aider les jeunes. Et donc j'invente les pépites vertes à ce moment-là. Un média digital, utiliser les réseaux sociaux, créer du contenu avec et pour les jeunes pour montrer que il y a des jobs qui existent et qu'en fait, les métiers de la transition écologique, c'est pas seulement installateur de panneaux photovoltaïques. C'est aussi élu, c'est aussi cuisinier qui fait un sourcing plus local. C'est aussi comptable, mais qui choisit de travailler pour des entreprises durables. Et donc, j'avais envie de crier au monde, ça vient vraiment de là. De toute façon, l'entrepreneuriat, c'est toujours un moment où on se réveille, on se dit « Mais pourquoi tout le monde n'est pas au courant ?» J'avais envie de crier au monde « Oui, c'est possible !» regarde tout ce qui existe et que tu peux faire.
Et alors, le confinement, c'est vrai que c'était un moment où, par nature, on était tous obligés de communiquer les uns et les autres de manière virtuelle. Donc, j'imagine que c'est ça le déclencheur. Mais quand même, ça, c'est le déclencheur du moyen. Mais comment est-ce que tu as eu l'idée de dire, il faut que je mette en valeur les gens? Comment ça t'est venu, ça?
En fait, au tout début, donc moi, je communique beaucoup sur mes expériences de stage et de job sur les réseaux. Et donc, au tout début, c'est des étudiants qui m'écrivent et qui me disent, comment t'as fait pour trouver ce job?
Ah, ok.
Mais c'est un étudiant, puis deux, puis dix, en fait. Et donc, je fais des coachings, des visio-zoom personnalisés pendant le confinement. Et je me dis, c'est sûr que je peux passer à l'échelle mon accompagnement. Et donc, c'est là que j'invente une solution qui permettra de faire passer à l'échelle. Et surtout, je suis vraiment déjà persuadée d'une chose à ce moment-là, c'est j'en ai marre qu'on me parle des papillons, j'en ai marre qu'on me parle de la couche d'ozone, du CO2, c'est trop froid, ça ne me touche pas. J'adore les papillons, hein, mais je sais que les gens iront que s'ils sont touchés personnellement et qu'ils arrivent à se projeter dans des histoires. Et donc, moi, comme je sais raconter des histoires, eh bien, je vais utiliser cette compétence que j'ai pour aider chacun, chacune à se projeter dans des carrières qui leur ressemblent, mais avec beaucoup d'émotionnel. Et évidemment, il faut garder du rationnel et se baser sur la science, le consensus scientifique, le GIEC, etc. Mais il faut rajouter de l'humain, parce que je trouve que c'est ça qui nous manque jusqu'ici. Et donc, je mets en lumière des centaines de gens pour montrer la diversité des options.
Et donc, voilà, maintenant, on est au cœur de ce que tu fais. Donc, aujourd'hui, tu prends contact avec des gens que tu identifies comme étant des gens qui font des choses intéressantes.
Ouais.
Et tu fais quoi concrètement? Tu fais une vidéo avec eux, ils se présentent, tu les questionnes. Comment tu les exprimes?
Il y a eu plein de formats. Je suis une personne créative, j'ai tout testé. Au tout début, c'était des questionnaires en ligne. Les gens me racontaient leur métier, je les transformais en articles de blog. Ensuite, j'ai fait ces vidéos, beaucoup en partenariat avec l'ADEME, où j'ai été à la rencontre dans toute la France de jeunes, certains qui ont quitté leurs études dans l'aéronautique pour se lancer dans la fabrication de vélos cargo et reprendre des études de soudeur pour apprendre à souder des vélos cargo incroyables. D'autres, comme ma petite sœur par exemple, qui a fini ses études d'agro et qui a décidé de s'installer en maraîchère bio dans la ferme de nos grands-parents. D'autres qui sont consultants en transition énergétique et qui ont décidé d'aller dans les grands cabinets pour avoir un impact systémique. Donc, à chaque fois que j'identifie une personne, moi, je vais être comme une journaliste qui va poser des questions de manière très curieuse jusqu'à avoir un peu la bonne punchline, jusqu'à ce que la personne se révèle vraiment et nous raconte son histoire. Et c'est ça qui touche les gens. Hier encore, j'étais à l'ESA, École supérieure des agricultures, pour parler d'agriculture au féminin. Et il ne fallait pas que je lâche la personne que j'interrogeais jusqu'à ce qu'elle s'ouvre vraiment, parce que prendre la parole en public, ce n'est pas évident pour les gens. Mais c'est normal, on ne nous apprend pas trop ça. Et donc moi, mon rôle en tant que personne qui sait le faire, c'est de mettre confortable les personnes en face de moi et de leur dire « tout est ok, si tu n'aimes pas, on supprime, on continue » jusqu'à ce que tu me donnes vraiment des choses qui vont toucher le cœur des gens.
Et comment tu sais ce qui va toucher le cœur des gens? Toi, quand quelqu'un te parle?
Bah moi, je suis une personne très sensible et très empathique. Ça me coûte beaucoup au quotidien d'être hypersensible, j'en rougis. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais t'es folle, en fait, cette sensibilité, c'est le plus grand cadeau qu'on t'ait jamais donné. Faut juste que tu décides de l'utiliser. Et donc, je suis en écoute vraiment avec la personne en face de moi. J'arrive à me connecter à ce qu'elle ressent. Et comme j'arrive à bien le transmettre, du coup, j'arrive à embarquer autour de moi avec ses émotions. Et je suis persuadée que c'est des trucs qu'on nous a empêchés de vivre parce que c'est pas assez rationnel et qu'on est dans un monde où il faut faire des tableaux Excel, c'est pas trop mon délire. Et donc maintenant, je suis plus en mode, ok, comment j'utilise cette compétence pour embarquer plus largement autour des sujets de la transition écologique qui sont des sujets aussi émotionnels.
Je te rejoins à nouveau sur un point, tu vois, c'est que ce soit le monde de l'entreprise ou le monde politique, il y a une espèce d'a priori qu'il faut être performant, battant et un peu pas trop gentil, quoi.
Exact.
Et tous les caractères inverses à ça, c'est-à-dire un peu faible, un peu gentil, un peu empathique, c'est dans la case négative. Donc je trouve que ce que tu dis là encore, est-ce qu'on est dans l'air du temps de se dire on bascule sur autre chose, sur une envie de moins de méchanceté, plus de bienveillance? Enfin, je ne vais pas faire du bisounours là.
Ah, mais faisons-en.
Je suis sûr qu'il y a quelque chose de juste dans ce que tu dis là, en ce moment. Enfin voilà, on ouvre des parenthèses de temps en temps dans la conversation, c'est pas plus mal. Alors, j'avais une question, comment tu les trouves ces gens?
Ouais. J'ai créé une communauté et j'ai dit à ma communauté dès le début, vous allez m'aider à trouver les pépites. Et donc, à chaque fois, je lançais des campagnes et je disais, je cherche 10 personnes. Remplissez ce formulaire, c'est en partenariat avec l'ANEM, c'est financé, je vais vous voir où vous voulez en France, en train, mais racontez-moi votre histoire. Et donc, comme j'ai développé une expertise de mobilisation de communauté sur les réseaux sociaux, franchement, j'ai eu des centaines et des centaines de candidatures. En parallèle de ça, j'en ai fait une asso. Ça s'appelle le Club des Pépites et ça fédère tous les jeunes professionnels de la transition écologique qui ont moins de 35 ans et qui veulent se mettre en réseau. Et donc, quand j'ai des besoins de conférences à droite à gauche, je mets un petit message et je dis qui est intéressé pour aller parler à cette conférence. Mais en fait, mon expertise, ça a été vraiment de créer des communautés soudées, parce qu'au cœur de ces communautés soudées, c'est peut-être là la bienveillance et le bisounours. En fait, il y a une valeur très forte qui est l'entraide. Pourquoi ? Parce que je pense qu'un monde plus durable, c'est un monde avec plus d'entraide, plus de solidarité. Et donc, quand on dit à chacun, chacune, moi, écoutez, je suis influenceuse LinkedIn, je peux vous aider à être plus visible. Par contre, en échange, il faut que vous m'aidiez à trouver des gens à Lons-le-Saunier, parce que je ne connais pas cette région, et qu'avec la fondation Good Planet, je dois aller sensibiliser des services civiques. Eh ben, je trouve des agriculteurs incroyables à Lons-le-Saunier grâce à mes abonnés LinkedIn. Donc, c'est assez puissant, en vrai, cette communauté que j'ai réussi à fédérer. Et j'accompagne pas mal de mes partenaires à créer la leur, en vrai.
D'accord. Et alors, les portraits que vous faites, que derrière tu exprimes un point de vue ou une expérience qui est intéressante, donc tu l'exploites sous une forme de vidéo, il y a différents formats comme tu l'as dit. D'ailleurs, si on veut, on va le redire à la fin, mais si on veut en voir des morceaux, on va où ?
Beaucoup sur Instagram, les pépites vertes, et sur YouTube, les pépites vertes, et aussi sur LinkedIn.
Ok, on trouve ça là sur les réseaux sociaux. Et après, concrètement, pardon d'être un peu peut-être cash, mais ça sert à quoi ?
Merci d'être cash. parce que le sens et l'utilité, c'est genre la question de ma vie. Donc ça sert à quoi ? Ça sert à donner de l'espoir et à inspirer. Et à aider chaque personne qui lit mon livre ou qui regarde mes vidéos à se dire que oui, c'est possible. Justement par rapport à ce que tu disais sur on a mis beaucoup la performance, on a mis beaucoup des compétences qui sont très fonceuses, qui sont pas du tout douces, pas du tout dans le care en avant. Et donc moi, je viens un peu dire si jamais ces compétences-là ou ces personnalités-là sont des choses qui t'inspirent, voilà des rôles modèles normaux. Qui font des choses anormales. Pourquoi normaux ? Parce que moi, je ne donne pas la parole à des CEO, je n'invite pas les patrons, patronnes des entreprises à impact, ce n'est pas mon truc. Moi, c'est des chargés de projet économie circulaire qui n'auraient jamais dû être invités devant une vidéo et qui, d'un coup, se retrouvent en star de Instagram, en rôle modèle accessible pour plein d'autres personnes. Donc, en fait, ça sert à créer de nouveaux imaginaires. Est-ce que c'est suffisant ? Je me pose la question tous les jours. J'ai l'impression que je ne vais pas assez loin dans mon impact. En ce moment, je me pose beaucoup la question. C'est pour ça que j'ai fait un bouquin avec une méthode pour dire vraiment à tout à chacun, voilà, 1, 2, 3, 4, les choses que tu peux faire pour y arriver. Mais je pense que c'est aussi une injonction que j'ai trop forte de me demander tous les jours, est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est assez ? Et parfois, j'essaye un peu de taire mes questions et mon cerveau sur ça.
Mais pour ne pas avoir un langage un peu trop administratif ou qui peut être un peu pénible, mais est-ce que tu as, comme on dit en langage, des indicateurs ? C'est-à-dire, est-ce que tu as des éléments qui te permettent de dire « oui, j'ai un impact »
ouais,
c'est-à-dire des gens qui te disent « j'ai vu cette vidéo, ça m'a donné envie de faire comme lui ou comme elle ».
J'ai des dizaines de messages. Encore hier, une jeune qui me dit « tu ne te rends pas compte à quel point ça m'aide à y croire et à m'inspirer ». Mais sincèrement, j'ai que ça. Et je suis à un moment de ma vie, j'ai 30 ans, où je trouve ça insuffisant. Et donc, je suis vraiment face à toi, et je le dis dans tous mes podcasts en ce moment, en train de me poser la question de mes indicateurs d'impact et de mon alignement personnel, parce que j'aimerais pas investir autant de temps dans des contenus, des vidéos et des livres si à la fin de la fin, il n'y avait pas d'utilité. Je pense que c'est juste que j'ai du mal à le mesurer, parce que quand on fait du service et des vidéos, c'est très dur. Je me compare souvent à un autre entrepreneur que j'adore, qui est Jean Moreau, qui a lancé Phoenix et qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour Jean, c'est très facile. Le matin, il suffit de savoir combien de tonnes il a évité de gaspiller. Moi, je fais quoi le matin pour savoir si je suis utile ? Et autant, à chaque fois que je dis ça, les gens me disent « mais non, tu ne te rends pas compte, tu changes des vies. » Là, je suis à un moment de ma vie où ça ne me suffit plus. Et je pense que c'est mon ambition et mon audace aussi qui commence un peu à être titillée. Ça fait 5 ans que je fais ce que je fais. Mais j'ai un peu envie de répondre honnêtement. Avant, j'inventais des indicateurs d'impact, puis je répondais aux institutionnels qui posaient ces questions-là. Maintenant, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est le meilleur endroit pour être la plus utile possible. Et c'est OK.
Oui, non, mais parce que c'est une question qu'on se pose tout le temps. C'est-à-dire,
bien
quand
sûr.
On fait quelque chose, est-ce qu'on a un impact et que ça sert à quelque chose? Alors, rassure-toi, l'élu que je suis, il se pose la question tous les jours et il n'a pas forcément la réponse tous les jours. Ça. Donc, c'est partagé là aussi. Moi, je suis élu sur les questions d'écologie et donc là, on a presque parlé comme si tu aurais pu faire ça sur n'importe quel sujet, en fait. Là, c'est... Ton bouquin s'appelle « Je bosse pour la planète ». Donc, la planète, l'écologie, c'est ton sujet. Alors, la question, c'est pourquoi ce sujet ? Tu aurais très bien pu faire ça sur la question de la santé, sur la question, une question d'accompagnement social, enfin, n'importe quel autre sujet. Tu l'as fait sur la planète. Pourquoi ? C'est l'heure du temps. Pourquoi ?
Je suis bouleversée, moi, par la situation. Lorsque j'ai compris que les humains avaient... amené à 100% en termes de cause au dérèglement climatique, c'est le GIEC qui le dit, je me suis dit, mais comment on peut être aussi bête, en fait ? Genre, le vivant, j'ai toujours été émerveillée, je suis une jeune fille de la campagne, une jeune femme maintenant de la campagne, et du coup, je ne comprends pas comment une espèce parmi toutes les autres a réussi à être aussi violente envers les autres, et à susciter un effondrement de la biodiversité, à avoir un impact et des injustices sur les gens qui vont devoir être des réfugiés climatiques. Enfin, je suis vraiment bouleversée. Et ça me touche tellement que quand j'ai compris, c'était, je pense, en, je sais pas, 2018, quand j'ai compris, il y avait les feux de forêt en Australie, les koalas qui mouraient, et je disais, mais attendez, mais c'est nous, ça ? J'ai eu honte. J'ai eu honte et je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ma honte ? Certaines personnes se mettent en colère. Moi, c'était pas ça. C'était la culpabilité. Et du coup, c'était un non-sujet pour moi. Je devais m'engager pour contribuer, réparer, parce que j'avais accès à l'information, parce que j'avais conscience et surtout parce que j'étais capable de recevoir. Ma sensibilité, elle m'a rendu capable de recevoir. Certains n'ont pas cette sensibilité. Donc, ils se disent, de toute façon, c'est foutu. Donc, autant vivre ma vie. Moi, je peux pas me dire ça. Et donc c'est pour ça, pour le vivant, quoi, pour la beauté de la vie de chaque espèce.
Très bien, j'ai pas les mots pour commenter, donc je suis dessus tous les jours aussi. Ce qui moi me plaît bien dans ce que tu fais, c'est que tu vois dans l'air du temps par rapport à cette situation et qui est bouleversante. Et évidemment, tu as raison et malheureusement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens partagent ton point de vue. Heureusement d'ailleurs.
Beaucoup, et je ne comprends même
et pas
sincèrement pourquoi on se pose cette question. Moi, j'essaye de ne pas trop me la poser parce que je ne comprends pas pourquoi tout le monde se dit « mais qu'est-ce qu'on a fait ?» Peut-être qu'en tant qu'élu, tu as une réponse.
Non, je ne sais pas pourquoi tout le monde ne comprend pas qu'il y a un gros sujet. Je constate juste qu'il y en a de plus en plus.
Oui, que, ça c'est évident.
Voilà, qu'il y a un phénomène générationnel aussi. Bref. Moi, ce que je trouve surtout intéressant dans ce que tu l'approche que tu as, c'est que c'est la réaction que tu as par rapport
exact.
À ce constat et ce côté bouleversé que tu as. Il y en a qui réagissent en, comme tu dis, en c'est foutu, tant pis, je vis ma vie et je baisse les bras. Il y en a d'autres qui se révoltent, et c'est un petit peu côté négatif quand même, des fois, c'est un peu violent. Et puis il y a des gens qui disent, comme toi, je vais essayer de voir ce qu'on peut faire, ce que moi je peux faire et comment les autres font. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est tu engages, tu suscites l'engagement.
Bien sûr.
Quoi. C'est ça qui aujourd'hui manque. Et précisément, quand... C'est quoi ton raisonnement là-dessus? Tu dis, est-ce qu'il faut... C'est, par rapport à... Je bafouille un peu, mais... Tu vois, il y a ceux qui alertent, qui te décrivent la situation. Et moi, j'ai des vidéos tous les jours qui me montrent des filets de pêche qui prennent des poissons, la planète qui brûle, etc. Et effectivement, ça c'est l'alerte. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Toi, tu ne fais pas ça. Mais pourquoi tu as basculé sur, plutôt que de faire de l'alerte
bien
comme
sûr.
D'autres, tu es devenu quelqu'un qui a plutôt essayé d'être dans le côté positif des choses?
Alors, pour commencer, je pense que je n'arriverai jamais à faire tout ce que je fais et à en faire une entreprise. et à vivre de ce que je fais s'il n'y avait pas de lanceurs d'alerte et s'il n'y avait pas de militants qui prennent des risques pour aller alerter sur la situation et aller challenger de l'extérieur les grosses industries polluantes. Donc déjà, j'ai du mal à comparer, j'aime pas comparer. C'est juste que moi, je suis incapable de faire ce qu'ils font. Je n'ai pas la colère comme émotion motrice, donc du coup, ça ne marche pas avec moi. Mais si certains ont envie de faire ça, qu'ils le fassent. Ceci dit, je les observe quand même, les militants très en colère et très énervés. Il y a toujours un moment où la colère, elle fait du mal à l'intérieur du corps et du coup, on a quand même besoin d'un peu d'apaisement. Moi, en tout cas, ce n'est pas celle qui me met en mouvement. Moi, je suis une fille qui fait. Je suis une petite fille de paysan. Je suis là pour... Mon livre, c'est « Je bosse pour la planète ». Je suis en mode « Qu'est-ce qu'on fait pour se mettre en mouvement ?» Et donc, pourquoi du positif ? Parce qu'en parallèle de ce trait de personnalité que j'ai, j'ai une passion pour la com et les histoires qui marchent le mieux. Alors oui, il y a les histoires catastrophes qui marchent bien, mais celles qui mettent en mouvement vers l'action, c'est aussi celles qui touchent. C'est celles qui disent « c'est pas foutu ». En fait, moi, je me suis intéressée aux neurosciences, au marketing. Pourquoi on fait acheter des Nike et on n'arrive pas à faire acheter des trucs responsables ? Enfin, moi, je pense qu'il faut utiliser un peu tous les outils, toutes les sciences de manière interdisciplinaire qu'on a à notre disposition pour réussir à comprendre comment on embarque plus. Et ensuite, je crée ma méthode à moi, qui m'est très personnelle, qui appelle juste à garder la foi, à garder la motivation. Les gens, en général, ils me disent « je te suis parce que ça m'aide à rester motivé ».
Mais c'est d'ailleurs le sujet, c'est comment on garde, quand on voit tout ce qui se passe, comment on garde l'envie d'agir, quoi. Donc c'est vrai pour toi comme pour moi en tant qu'élu, c'est comment on garde le moteur allumé, quoi. C'est un peu la vraie question. Il y a des jours où, objectivement, le moteur, il tousse.
J'ai compris très récemment comment faire et comment répondre à cette question. Et la réponse, elle est très égoïste. Il s'agit de prendre soin de soi. Je pense que c'est mon dernier chapitre et ça ouvre un peu le prochain chapitre de ma vie. C'est prendre soin de soi pour prendre soin du monde. Nous sommes les véhicules de notre engagement et si on ne prend pas le temps de s'assurer qu'on est en bonne santé physique et mentale, et évidemment je vous dis ça parce que j'ai eu des problèmes de santé physique et mentale, parce qu'on y passe tous, les surengagés, du coup notre engagement n'est pas durable dans tous les sens du terme. Et donc prendre soin de soi, savoir s'écouter, se poser la question de notre environnement interne, externe, ça paraît hyper égoïste pour moi. Et en fait, j'ai compris que c'était un acte très altruiste que de m'assurer que moi, je suis en forme pour pouvoir aider d'autres à être en forme. Donc ma réponse, elle est dans aller dans la nature, passer du temps avec les gens que j'aime, faire des choses que j'adore, à savoir écrire et faire des podcasts. Et ensuite, me dire, OK, maintenant que je suis en forme et que je vais bien, comment je retourne au front ? Mais on ne peut pas, pendant 12 000 ans, être 100% tourné vers les autres, vers la planète, sans jamais se demander, et moi, en fait, qu'est-ce que je veux dans ma vie ?
Le message est passé et je le partage là encore. Je pense qu'une petite balade en forêt,
voilà.
Il n'y a rien de mieux pour repartir en bonne forme et repartir au combat. Juste parce que le temps passe et qu'on arrive un peu à la fin du podcast, est-ce que tu as, dans tes portraits récents, un ou deux trucs, caves, portraits, personnes qui t'ont particulièrement marqué ?
Alors, en ce moment, moi, je travaille depuis la Climate House, qui est un nouveau lieu à Paris. Et je vais donner un exemple parisien et un exemple non parisien. Mais là, on est quand même sur un podcast sur région de France. Donc. Et à la Climate House, il y a quelque chose de magnifique, un effet fourmilière, puisque Lucie Bache et 50 cofondateurs, Lucie Bache étant la fondatrice de Too Good To Go, qui a préfacé mon livre, se sont réunis pour se dire, il nous manque une chose dans notre écosystème de l'innovation impact, c'est un lieu qui cristalliserait nos rencontres et la capacité de nous mettre vraiment en réseau et en partenariat. Et donc ça fait depuis novembre que je suis à la Climate House, et quand je rentre, j'ai l'impression d'être dans une war room qui prépare le monde de demain, et qui n'est même pas le monde de demain tellement il existe déjà. Donc là-bas, il va y avoir des entreprises comme Omi qui font vraiment de l'alimentation beaucoup plus responsable, beaucoup plus locale, qui rémunère mieux les agriculteurs. Il y a Popins, qui est la nouvelle solution de Lucie Bache qui permet d'encourager l'économie du partage. Et puis, il y a mon amie Amélie Deloche qui a construit Paye ton influence, qui dénonce les pratiques de l'influence qui ne sont pas responsables. Et il y a comme ça, c'est vraiment plus de 200 organisations qui grouillent et qui sont en mouvement vers un même endroit, mais de manière tellement différente que je trouve ça trop beau parce que c'est chacun à sa manière qui essaye de faire son action.
On peut y aller à la Climate House comme ça, c'est porte ouverte.
Ouais, et on peut même rejoindre la communauté, être membre, c'est à Sentier,
ouais.
Donc c'est vraiment central. Il y a beaucoup d'événements, il y a une programmation qui est ouverte à tous et à toutes, et on peut vraiment se nourrir parce que il y a plein de confs et c'est vraiment un environnement très stimulant. Ça, c'est un exemple de ce qui se passe en ce moment et qui signifie, je pense, une ère des coalitions. Je suis aussi administratrice au mouvement Impact France et à GenAct, qui sont deux grosses structures qui fédèrent en mode réseau de réseau, tous les réseaux en ce moment en France, bien implantés territorialement. Et je sens ce moment de coalition quand parfois il y a eu des guerres de chapelle à l'intérieur même de notre écosystème, où on ne savait pas quelle était la bonne sémantique, et là on sent que c'est plus possible en fait. Il faut faire un front commun sur cette nouvelle économie plus saine, plus durable. Ça, c'est ce que je ressens à l'échelle parisienne et j'aime beaucoup graviter ici. Pour autant, moi, ce que j'adore, c'est aussi regarder quand je me balade dans toutes les régions de France que j'ai pu découvrir. Parmi les villes que j'ai adorées, Lons-le-Saunier, par exemple, c'était vraiment hyper touchant. J'avais à mes côtés un agriculteur qui s'était lancé pour réussir à faire du maraîchage bio et qui racontait devant des lycéens et des services civiques combien c'était compliqué et combien c'était passionnant. Et pardon, mais l'agriculture, c'est vraiment le sujet. Pareil, je comprends pas pourquoi on s'en empare pas plus. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on dit 50% des agriculteurs partent à la retraite dans 10 ans, mais en fait, genre, pourquoi on réenchante pas et pourquoi pas plus d'attractivité autour de ces métiers-là? Pour le coup, je sais un peu pourquoi, puisque ma petite sœur est maraîchère, c'est très dur de faire de l'agriculture durable à taille humaine, mais ça mérite de soutenir chaque personne qui se lance dans ce sujet-là. Et puis une deuxième personne qui était à Lons-le-Saunier, qui était un jeune qui travaille sur le sujet de la consigne et comment, après toute une carrière dans le conseil, il s'est dit « Tiens, je me réoriente, j'ai envie de m'ancrer, je m'installe à Lons-le-Saunier et puis je vais trouver une structure, je vais faire de la fresque de l'économie circulaire et je vais accompagner les commerçants locaux à faire plus de circularité. On va tenter des choses pour réimpliquer la consigne dans les manières de vendre et d'acheter. » Donc en fait, moi j'ai trop de chance, je rencontre tous les gens qui inventent la production et la consommation du monde de demain, tout ça de manière très solidaire et bisounours et bienveillante. Et du coup, j'ai envie de dire, il existe déjà ce monde. Par contre, on va avoir besoin des élus et des politiques publiques et des financeurs pour s'assurer qu'il soit déployé à l'échelle et s'ancrer territorialement sur toutes les parties prenantes qui se bougent, parce que tout est dans le local, évidemment.
Très bien. Bah, merci beaucoup, Claire, pour cet échange qui était très sympathique.
Avec plaisir, merci pour l'invitation.
Ici à la région Île-de-France, vous avez écouté un nouvel épisode de Concret, le podcast qui met en lumière des solutions pour une écologie positive. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci et bonne journée.
Merci beaucoup.